Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le salon de l'action gouvernementale a démarré aujourd'hui en attendant l'ouverture officielle lundi 22 juillet. L'esplanade du palais polyvalent de Yaoundé reçoit environ 200 exposants qui communient autour du thème « Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens ». La Coupe du Cameroun de volley-ball se joue demain dimanche à Yaoundé. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelekombi, va présider les finales en dames et messieurs dès 13h. Lito Team sera opposé à Mayo Kanyi chez les dames et Port Autonome de Douala sera opposé à Lito Team messieurs. Les pages culture vont parcourir un ouvrage paru aux éditions Veritas. L'entre-deux-mondes, c'est une écriture de Gilles-Joseph Ateba qui oppose le monde des lumières à celui des ténèbres. Bienvenue aux 20h du samedi 20 juillet 2024. Cette année, pour la 13e fois, Yaoundé abrite le SAGO, le Salon de l'Action Gouvernementale. La traditionnelle plateforme annuelle accueille les gouvernants et les gouvernés. Au programme jusqu'à samedi prochain, des conférences publiques ou encore des rencontres entre les opérateurs économiques et la diaspora camerounaise. Sur la pertinence du thème de l'édition 2024, voici les explications du chef du projet SAGO. Patrice Assiga Eyene est au micro de Blaise Anisset à Begandengue.
Le thème de cette année est axé sur la gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le SAGO n'est qu'une plateforme qui permet aux administrations publiques d'interagir ou d'échanger avec les populations. Le développement d'un pays dépend aussi ou alors est tributaire à la gouvernance, y compris l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Donc il était important qu'on en parle. En 2012, lorsque le projet a été lancé, nous avions à peine 1000 visiteurs. Aujourd'hui, on va à plus de 120 000 visiteurs. Ça prouve qu'il y a un intérêt du côté des populations. Au niveau même des exposants, on est parti de 5 exposants. Aujourd'hui, le SAGO, ou alors depuis 4 ans, le SAGO enregistre au moins 200 participants qui relèvent du secteur public et de plus en plus le secteur privé s'intéresse également à l'événement. Donc, si on interprète l'évolution de ces indicateurs, ça prouve simplement qu'il y a un intérêt. Maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose où on sent qu'il y a une certaine perception? Je pense qu'il y a une certaine amélioration. Je pense que la communication rentre dans ce qu'on peut appeler les missions régaliennes de l'État. Chaque gouvernement a l'obligation de communiquer. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la République, dans son instruction générale, a toujours encouragé son gouvernement à informer régulièrement sur les actions qu'il mène pour l'amélioration des conditions de vie. Je crois que le SAGO vient simplement en appui à cette instruction-là pour donc créer un lien direct. Vous savez, au début, c'était les communiqués, mais aujourd'hui, on a dépassé le cap de l'information dans le sens de l'envoi des messages du gouvernement vers les populations. Aujourd'hui, nous rapprochons directement, nous permettons aux parties prenantes, c'est-à-dire aux populations, de poser directement des questions aux acteurs majeurs du travail gouvernemental sans intermédiaire. Je voudrais dire que nous allons décliner cet événement à travers une exposition riche. Il y a un peu plus de 200 administrations qui sont déjà installées. Nous aurons au moins 20 conférences publiques sectorielles qui seront retransmises en direct sur plus de 5 chaînes de télévision et plusieurs dizaines de plateformes digitales. L'innovation cette année, c'est qu'au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative organise le premier forum sur la modernisation de l'administration publique au Cameroun. Vous comprenez qu'on reste encore concentré sur l'information des populations. Vous avez également la Camwater qui va organiser un colloque sur l'eau et l'assainissement pendant le SAGO. Donc, c'est un SAGO riche qui débute au palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs.
Patrice Assiga Eyene, chef du projet SAGO. Le Salon de l'Action Gouvernementale a donc accueilli ses premiers visiteurs aujourd'hui. Le site demeure quelque peu en chantier. Les institutions continuent de s'installer en attendant l'ouverture officielle lundi. Voici du moins l'état d'esprit de quelques exposants rencontrés par notre reporter Prisca Njeng Mungolo.
Perrin Melchior Nzia, service à la cellule de communication du ministère de l'élevage, pêche et industries animales. Nous sommes au Sago, nous sommes pratiquement à 80-90% de nos installations. Nous avons nos différentes structures sous tutelle qui seront ici pour exposer tout leur savoir-faire en matière d'élevage, pêche et industries animales. Et nous souhaitons que nos différentes cibles passent ici dans notre centre pour s'enquérir de ce qu'ils savent faire le mieux et pour avoir des informations un peu plus précises. Ainsi que les opportunités.
Madame Mbarga, Josiane, chef service édition à l'ARMP. Pour le SAGO 2024, nous souhaitons d'abord que les maîtres d'ouvrage viennent nombreux s'acquérir sur le stand de l'ARMP parce que nous aurons à promouvoir la formation. Nous avons constaté que dans le domaine de la formation, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui continuent à rester un peu dans le flou.
Désiré Mbousnoum, nous avons rapporté des bonnes choses de Douala pour Yaoundé. Et nous attendons beaucoup de clients pour venir découvrir ce que nous savons faire. Nous faisons dans la restauration, la grillade, les mets traditionnels et tout ce qui accompagne la restauration.
20h07. Les comptables publics de l'Adamawa étaient réunis ce samedi pour s'arrimer à la réforme de leur secteur d'activité. La circonscription financière de leur région a mobilisé en un semestre 8 milliards de francs CFA. Les assises de Meganga ont connu la présence du préfet du Mbéré, Louis-Florent Ribouem Amungam, a promis un accompagnement pour accroître les recettes financières. Alexis Guidjartouan nous en dit plus.
Les comptables publics dans l'Adamawa ont mobilisé un peu plus de 8 milliards de francs CFA et honoré les engagements de l'État à hauteur de 9 milliards. Des réalisations dont la légère baisse se justifie par de nombreuses difficultés, dit Amadou Djomna, trésorier PR général de Gaoundéré.
Nous avons des soucis dans le traitement au quotidien des comptabilités. Il y a plusieurs contingences qui entrent et qui rendent souvent l'exécution de nos tâches difficiles. Souvent des soucis informatiques, des soucis de communication d'informations avec nos différents partenaires.
Au sortir de la première réunion de coordination de l'exercice en cours et axée sur l'appropriation de la réforme comptable, la Direction générale du Trésor, représentée par Yaouba Sayou, inspecteur de service du Trésor, prescrit quelques pistes de solutions pour maximiser les recettes.
Il faut mener au quotidien les contrôles internes. Il ne faut pas relâcher par rapport à la réforme comptable.
L'administration locale représentée par le préfet Louis-Florent Ribouem Amungam du Béré s'engage à les accompagner dans leurs efforts.
L'administration, d'une manière générale, a un rôle fondamental à jouer dans l'accompagnement des différents services publics. Ce rôle-là, nous entendons le jouer comme cela se doit pour permettre aux différents services comptables de jouer véritablement leur partition.
Tous repartent donc mieux informés sur la bonne tenue des documents comptables et la réforme en cours. Pour de meilleurs résultats. Gaoundéré, Alexis Guidjartouan, CRTV.
En politique, la ville de Garoua a abrité ce samedi la conférence de la section RDPC Benoué Centre 2. Les travaux dirigés par le président de la dite section, Oumarou, ces travaux ont connu la présence du ministre Gabriel Mbaye-Robé, président de la commission permanente départementale du RDPC pour la Benoué. Les militants affûtent ainsi leurs armes pour assurer plein succès au Parti de la Flamme aux prochaines consultations électorales. CRTV Nord, IA, Hacham Alim.
Un engagement sans faille pour qu'aucune voix n'échappe au RDPC dans la section Benoué Centre 2 lors des consultations électorales à venir. Dans cette circonscription tant convoitée par l'opposition, les présidents des sous-sections, ceux des comités de base et des cellules, porte-parole des 19 000 militants, naviguent sur la maturité de leur parti pour consolider les acquis et se projeter. Oumarou, président de la section RDPC Benoué Centre 2.
Je suis satisfait par la mobilisation d'aujourd'hui. Ça a permis aux militants de s'inscrire sur la liste électorale.
La conférence, organisée en présence du représentant du secrétaire général du comité central, Thomas Fonzeng Kwanke, a permis aux différents orateurs de disposer des arguments à travers exposés, travaux en atelier pour battre véritablement le rappel des troupes. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé, président président de la commission permanente départementale du RDPC pour la Bénoué.
Les militants aujourd'hui sont prêts, ont exhorté le président national, son excellence Paul Biya, à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025.
En marge de cette conférence, une rencontre sportive et une séance de reboisement ont été organisées. Garoua, Iya Chamalim, CRTV.
Le président du bureau de section RDPC, Nyong Mfumu, le maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongo Bikor, va présider une réunion relative à l'évaluation des partis, à l'évaluation des activités du parti à la base, jeudi 25 juillet, dès 10h, dans la salle des actes de la mairie d'Ayos. Y sont conviés les présidents des 44 bureaux de sous-section RDPC, OF et OJ RDPC, ainsi que les militants chefs de communauté. Une campagne de soins de santé est organisée dans l'extrême nord au profit des femmes enceintes résidant dans le Mayo d'Anaï. Plus de 300 dames issues de milieux défavorisés et de communautés vulnérables sont la cible de l'initiative de Boniface Bayaola, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires en charge de l'enseignement normal. Plus de précisions sur cette campagne de soins de santé avec notre reporter Adamou Moussa.
Bien installé sur sa machine, Salamatou, la quarantaine bien sonnée, réfugiée au camp de Minawao, a ouvert depuis 2020 un atelier de couture.
J'ai fini ma formation, maintenant je vais coudre et bénéficier un peu de l'argent pour faire mon besoin avec.
Comme elle, de nombreuses femmes réfugiées au camp de Minawao ont bénéficié des actions du gouvernement pour se prendre en charge. Et face à la réduction des financements par les partenaires au développement, les autorités ont opté pour des initiatives visant à encourager ces réfugiés à faire des activités agricoles. Midiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord.
Depuis pratiquement 3-4 mois, les appuis faits par nos partenaires sont réduits. Nous avons plus de 70 000 réfugiés, il va falloir penser à leur prise en charge. Nous avons donc, avec les autorités locales, tous les partenaires au développement décidé de leur trouver des lopins de terre. 150 hectares, des tracteurs ont été mis à disposition par le PNUD et le matériel, tout ceci pour les accompagner.
Au-delà de ces actions, les femmes réfugiées du camp de Minawao bénéficient aussi des appuis et autres facilités pour développer des activités commerciales au sein de ce camp. Marwa Adamou Moussa, CRTV.
L'enthousiasme monte dans le sud-ouest en vue de l'intensification de la résilience face à la crise sécuritaire. C'est en raison de la médaille de la vaillance reçue le 4 juillet dernier par le gouverneur de cette région. Bernard Okalea Bilaï a présenté cette distinction au cours d'une cérémonie dans la ville de Bouéa. Occasion pour les forces vives d'exprimer leur gratitude au chef de l'État et de s'engager à œuvrer sans relâche pour une paix durable. Et de cette cérémonie dans ce reportage de Stéphane Tala.
Grand moment de reconnaissance en accord avec la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la nation conférée à titre exceptionnel au gouverneur du Sud-Ouest. À travers une pléthore de témoignages, autorités et citoyens ordinaires ont salué la bravoure et l'abnégation de Bernard Okalea Bilaï face à la crise sécuritaire dans la région. Kengsa Collins, député jeune.
Nous prions tous les jeunes du Sud-Ouest d'accompagner le gouverneur pour accomplir la mission du chef de l'État pour que la paix puisse prendre place.
Le docteur Mafani Teke a porté la voix des délégués régionaux.
Le chef de l'État allait sur le terrain et nous sommes très contents qu'il a reconnu les efforts qu'on a bâtis pour que la paix retourne dans le Sud-Ouest. Et ça se voit à travers la reconnaissance qu'il a accordée au gouverneur du Sud-Ouest.
En retour, le gouverneur va dédier cette haute distinction à l'ensemble des forces vives de la région, surtout aux populations pour leur collaboration et leur résilience. Celles-ci doivent se poursuivre afin d'éliminer les poches de résistance qui existeraient encore, relève le récipiendaire. La remise des cadeaux et la coupure du gâteau vont aussi marquer la célébration qui s'achève sur la piste de danse. Boya, Stéphane Tala, CRTV.
20e anniversaire de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Kourmou. La célébration donnera lieu à une visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga va célébrer la messe pontificale demain dimanche dès 12h. Ce sera l'occasion d'administrer le sacrement de confirmation en cette même journée qui marque la fête patronale de cette paroisse. Établissement des cartes nationales d'identité, une opération spéciale est programmée à Ndom dans le Nyon et Mfoumou dès lundi 22 et jusqu'au 30 juillet 2024. Des équipes mobiles de la police vont travailler de 7h30 à 18h. L'arrondissement bénéficie ainsi d'une autorisation spéciale du délégué général à la Sûreté nationale à la demande du maire de la commune d'Endom, René Bekolo et Sama. Près de 2500 personnes sont attendues dans les villages Endom, Centre, Akoudou, Ejom, Mungwa, Eboman, Akoualoui et Eyek. Le conseil des bureaux de la Carte Rose va se réunir dans la ville de Mbalmayo dès lundi et jusqu'à vendredi 26 juillet. À l'ordre du jour, l'élection du nouveau directeur technique, le peaufinage des réformes pour l'adoption d'une seule communauté qui va englober la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, la CEE, la CEEAC et les pays des Grands Lacs. Activité dans l'extrême nord du pays, l'inauguration du forage à énergie solaire de Bizili et la visite du village pionnier. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, y procédera lundi 22 juillet dès 10h. Également dans son agenda, la remise de matériel et d'équipement d'installation aux bénéficiaires du plan triennal spécial jeune à Touloum dans le Mayo-Kani. C'est une... La chronique du 20h nous plonge dans le souvenir d'un héros du 20e siècle. Le monde entier a observé le 18 juillet dernier, il y a 2 jours, le Mandela Day, une journée qui commémore l'héritage du militant de la lutte anti-apartheid, Madiba. Est son patronyme devenu symbole de liberté. Et pourtant, Nelson Mandela n'a toujours pas fait consensus. Évocation d'un destin exceptionnel dans cette chronique de Françoise Coquichouès.
C'est une rockstar, du moins en a-t-il la notoriété. En son grand âge, les figures mondiales majeures de la politique, du sport et des arts ont fait le voyage jusqu'à Johannesburg pour pouvoir prouver, photo à l'appui, l'avoir rencontré. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013 en Afrique du Sud. Une icône dont l'aura a chevauché 2 siècles, le 20e et 21e, et continuera de rayonner dans le temps. L'histoire est malicieuse. Le premier président de la République d'Afrique du Sud, élu en 1994 à la suite des premières élections non ségrégationnistes de l'histoire du pays, a longtemps été traité en maquisard et son parti, l'ANC, interdit en 1960. Celui dont le nom de clan est Madiba est alors avocat et partage avec ses compagnons de lutte un idéal simple et juste. En finir de manière non violente avec l'apartheid mis en place par la minorité blanche. Nelson Mandela passera 27 ans en prison. Son tort, avoir fondé en 1961 et dirigé la branche militaire de l'ANC pour obtenir par la force l'égalité raciale. Le contexte international de l'époque étant celui de la décolonisation et de la lutte pour les droits civiques. Libéré en 1990, alors que le vent de la démocratie souffle sur le monde, Nelson Mandela a changé son fusil d'épaule et prône désormais de faire de son ennemi un associé. Une auteure actée en 1993 par le prix Nobel de la paix, attribué conjointement au président sud-africain progressiste Frédéric de Klerk et à l'ancien prisonnier Nelson Mandela. La nouvelle Afrique du Sud est née, une nation arc-en-ciel placée sous les auspices de la réconciliation, donnant priorité à la négociation plutôt qu'à la force. Une belle leçon.
Thank you. Les sports, la Coupe du Cameroun de volleyball se joue demain dimanche à Yaoundé. Les finales seniors dames et messieurs vont démarrer à 13h au Palais des Sports sous la présidence du ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi. Et voici l'affiche. Chez les dames, Lito Team, vainqueur l'an dernier, sera opposé au Mayo Kani. Et dans le tableau des messieurs, Lito Team va affronter Port Autonome de Douala, tenant du titre dans le championnat volleyball zone 4 Afrique centrale. Coupe du Cameroun de handball, les huitièmes de finale se sont disputés ce samedi dans la ville de Yaoundé. Les qualifiés pour les quarts de finale en dames sont Université de Bouéa, Dynamique de Bokito, Diva de Bafoussam et Tigresse de Bachenga. Le carré des messieurs est composé ainsi qu'il suit: Renaissance de Douala, Friendship de Yaoundé, Université de Bouéa, FAP de Yaoundé. Ces quarts de finale vont se jouer demain dimanche au Centre de Jeunesse de Madagascar et au de Mateko. Toujours en sport basketball jeune, l'Académie Niba Elite remporte la première édition du tournoi international Mathieu Bisseni. Une victoire obtenue au terme d'un intense combat face au Centrafricain de Giraffe Academy. La partie de basket était l'une des 7 oppositions programmées cette journée dans le gymnase du collège Vogt à Yaoundé. Les 3 premiers sont donc Niba Elite, Giraffe Academy et Zarasklo de Bangui. Plus de précisions avec Russell Oriani.
Un dribble éclair, une passe, puis un tir sur la ligne des 3 points. La balle se loge dans le panier à 2 secondes du terme. Le gymnase explose. Kélian Galipote vient d'offrir à son équipe le point de la victoire, le point du titre. Le capitaine, ému.
On est tous contents, c'est la joie derrière.
C'est surtout la joie d'un groupe sauvé de la désillusion grâce à son abnégation et son courage.
On était mené de 10 points, on a fait tout pour remonter, on est remonté, on a même mené au score.
Une force collective exemplaire estampillée Niba, l'équipe a achevé son parcours par 5 victoires en autant de matchs, régulièrement au-dessus de la mêlée. Le club camerounais se classe premier devant le Zarasklo de Bangui et Giraffe Academy, respectivement logés au deuxième et troisième rang du classement final de la compétition. Un tournoi international, première levée, placée sous l'égide du vivre ensemble, du fair play et du développement des capacités. Le rendu d'ensemble donne satisfaction au comité d'organisation, son président Yves Tsala.
Nous sommes totalement satisfaits sur le plan organisationnel parce que les enfants s'épanouissent. Ils ont compéti, mais ils se sont fait des amis. Si on commence bien au niveau de ces bases-là, le reste va suivre.
L'apprentissage des jeunes basketteurs se poursuit en 2025 à l'occasion du deuxième acte du tournoi international Mathieu Bisseni.
Littérature en ouverture des pages culture. L'entre-deux-mondes, c'est l'intitulé du roman de Gilles-Joseph Ateba. Paru aux éditions Veritas, le roman présente le monde, l'auteur présente le monde de la lumière et le monde des ténèbres qui oppose le Christ au malin. La publication est dédiée aux lecteurs de toutes les obédiences religieuses. Landrine Zanga résume les 200 pages.
C'est dans une ambiance de joie que l'arsenal patrimonial des peuples Bassa, Mpo et Bati, sera exalté à Puma Parideya en novembre prochain. Le temps d'un retour aux sources qui permettra à cette communauté d'offrir un bouillon culturel aux festivaliers. Confidence du président général du bureau exécutif de cette association,
Mbombok Malet Manjami Malnjam.
L'édition 2024 s'appelle Bimba. Parce que pendant 8 ans, l'association et ses activités ont semblé un peu en sommeil. Il faut qu'on se remette debout. Le festival est désormais localisé à Puma.
La liste des ingrédients affiche des expositions-ventes, le partage des us et coutumes, des ateliers, des conférences, l'art culinaire et des animations diverses.
Le festival vient à la faveur d'un nouveau bureau. Nous avons 6 journées thématiques dédiées. Une journée sera consacrée aux Mbok, qui fondent la tradition Bassa Batimpo. Une journée sera consacrée aux familles Mbokléa pour discuter ensemble. Une journée pour les communes. Une journée va être dédiée à la diaspora.
Au cours de ce rendez-vous de 9 jours, 200 exposants y sont attendus pour 100 000 visiteurs, avec 150 spectacles servis par 2000 artistes d'ici et d'ailleurs. Une aubaine pour les peuples Bassa, Mpo et Bati, de mettre en exergue leur fraternité, leur emlé et surtout leur vitalité.
Une erreur d'aiguillonnage a plutôt positionné le reportage sur les Mboglia. Nous vous prions de prendre maintenant Landrine Zanga sur ce roman « L'entre-deux-mondes » présenté ce samedi à Yaoundé, paru aux éditions Veritas. La publication est dédiée aux lecteurs de toutes les obédiences religieuses.
C'est une incroyable aventure dans laquelle nous promène l'auteur en 15 chapitres. Pour son plus grand malheur, le personnage principal de ce récit nommé Oli est une jeune femme qui s'est retrouvée contre son gré sur une balançoire et ignore de quel côté elle sera projetée. D'un côté justement, un fiancé ténébreux et cynique déterminé à la dompter et de l'autre, une main tendue décidée à l'aider. Gilles-Joseph Ateba, auteur.
C'est une histoire assez extraordinaire qui se situe entre deux mondes, c'est-à-dire le monde de la lumière et celui des ténèbres. Et notre monde même, qui est entre les deux, au milieu de ce monde, l'homme est cartelé entre les puissances du mal et les puissances du bien. Dieu est effectivement au milieu de notre sépulture, quelles que soient les forces qui s'opposent à nous.
Pour les responsables d'église, ainsi que des fidèles, ce livre est à lire et à relire pour exalter la suprématie de Dieu.
Je suis Pierre-Germain Bellinga, je suis l'un des modérateurs de la communauté. On passe beaucoup de leçons par rapport au discernement des esprits, mais aussi beaucoup de doctrines sur la connaissance de la parole de Dieu. Ça nous aide à ouvrir grand les yeux.
Madame Mengadaraïssa, en tant que chrétien, il m'éclaire davantage, vous savez, sur les luttes et les combats que nous menons chaque jour.
Eliane Bernadette Omagnan, ces expériences-là nous permettront de grandir dans notre foi.
Gilles-Joseph Ateba est le fondateur et le modérateur de la communauté Les Béatitudes du Très-Saint-Cœur de Jésus. Après cette publication, ses regards sont désormais tournés vers le prochain chef-d'œuvre.
À verser dans l'agenda culturel, la prestation de Rachel Tchungi demain dimanche soir au Center Park de Yaoundé, à Hala, échangeur. Autre décibel au complexe Le Montagnard dans la ville de Nkongsamba, attendu ce samedi dès 22h, l'artiste Fadil Le Sorcier sur une orchestration du groupe Eyango. Et le Palais des Congrès à Yaoundé va clôturer dimanche demain dès 19h, la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias porté par l'Association des journalistes culturels du Cameroun. Au programme, un défilé de mode africaine, la remise de trophées aux hommes et femmes des médias et de la musique urbaine autour de l'égérie de l'édition 2024, la slameuse Lidol. Le salon de l'action gouvernementale a démarré ce samedi en attendant l'ouverture officielle lundi 22 juillet. L'esplanade du palais polyvalent de Yaoundé reçoit environ 200 exposants qui communient autour du thème « Gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens ». Au programme jusqu'à samedi prochain, des conférences publiques, des rencontres entre les opérateurs économiques et la diaspora camerounaise. Les sports, Coupe du Cameroun de volleyball, rendez-vous demain dimanche au palais polyvalent de Yaoundé. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelekombi, va présider les finales en dames et messieurs dès 13h. Lito Team sera opposé à Mayo Kaini chez les dames et Port Autonome de Douala sera opposé à Lito Team chez les messieurs. 20h29, fin du journal sous la coordination de Serge Foisguet. Au générique, Célestin Gouès, Coralie Laetitia Emini, Christelle Boudjeka. Mesdames, messieurs, bonne fin de soirée et merci de nous écouter. Mmh.